me que se passe teu?
Me que se passe teu?
Oh, me qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 30 janvier, j'espère qu'on va pouvoir aller au bout, qu'on va pas se faire couper par un gros coup d'éclair, parce qu'ici sur Saint-Thibault ça tombe fort et ça tonne fort aussi. Eh ben, on va commencer dans l'Hérault avec des remous suite aux annonces du président du département, Kléber Mesquida, qui ont été annoncées lundi soir, notamment qu'a fuité dans Libération. Donc le président socialiste du conseil départemental de l'Hérault aurait annoncé donc ce lundi, au cours d'une réunion avec ses vice-présidences, une coupe de 100% du budget alloué à la culture. Ça avait fait beaucoup d'émoi donc lundi soir et dans les jours qui ont suivi. Depuis, il y a eu des explications de la part du principal intéressé qui finalement a annoncé que 48% de budget, ce qui est déjà pas mal quand même, ça fait la moitié. Et puis tout ça ne sera décidé qu'en février, que le 7 février, donc on attend d'avoir les chiffres sûrs. On va quand même étudier un petit peu tout ce qui se joue derrière ces annonces. Un vent de panique, bien évidemment, s'est levé chez tous les acteurs culturels du département et au-delà. Et donc le président Kléber Mesquida a précisé le contexte de ces suppressions prévues en réponse à l'article paru chez Libération. Ce sont nos camarades de Altermidi et Jean-Marie Dine qui s'est occupé justement de relater tout cela hier soir dans les colonnes de son média que vous pouvez retrouver aussi en ligne, altermidi.org. Alors Kléber Mesquida, donc le président de l'Hérault qui fêtera cette année d'ailleurs ses 10 ans de présidence, suite à son élection, hérité d'un réseau d'acteurs culturels, d'assos, de festivals et de collectifs très riches et très efficaces, hein, même dans les zones les plus reculées du département. C'est un petit peu de contexte donc, que nous redonne Jean-Marie Dine. Même si l'on disait le président naturellement plus porté sur le réseau routier et le BTP que sur l'offre culturelle, il a tenté au cours de son premier mandat de faire vivre la culture à partir des deux principales vitrines culturelles de l'Hérault, que sont le Domaine d'eau à Montpellier, et Sortie Ouest, qui elle est devenue la scène de Bessan, on est du côté de Béziers. Mais depuis 2016, des difficultés ont vu le jour, notamment suite au transfert de la compétence culturelle sur le territoire de la métropole de Montpellier. Ça, c'était à cause de la loi NOTRe. Ça a foutu un petit peu le bazar dans toutes ces instances. Les négociations ont donc achoppé pendant des mois, dans un contexte financier social très tendu. Par exemple, le domaine d'eau a été séparé en deux, avec une interruption brutale de saison culturelle juste là cette année. Le maillage culturel du territoire, quant à lui, s'est organisé autour de plusieurs festivals comme Saperlipopette, Arabesque, Les Arabesques ou le Printemps des Comédiens. Et bien donc, lors de la préparation du budget pour 2025, le président a annoncé vouloir se recentrer sur les compétences obligatoires du département, à savoir les missions sociales, les collèges ou bien les routes départementales. On se demande donc si l'effacement de la politique culturelle annoncée nuira ou pas au pilotage opérationnel de sa politique globale, puisque ça fait quand même des gros trous dans la raquette. Cette coupe potentielle qui a été annoncée au départ à 100% dans l'IB, mais je le dis, a priori ça sera que 48%, fait l'effet d'une bombe donc, puisque supprimer d'un revers de manche ce budget qui est estimé entre 5 et 6 millions d'euros paraît relever d'une décision incompréhensible. Les médias nationaux, d'ailleurs, n'ont pas tardé pour la comparer aux mesures radicales pratiquées par la droite musclée ou le RN. Et on pense bien évidemment à ce qui se passe en ce moment du côté de la région Loire. Où là, c'est 100% aussi de la culture qui a été sabrée. Donc le président Mesquida explique cette coupe budgétaire en expliquant la situation budgétaire du département de l'Hérault à la fin de l'année précédente, une situation donc en dégradation forte suite à une baisse très conséquente des dotations de l'État, ainsi d'ailleurs que 29 autres départements de France. Plus, eh bien, s'ajoutent les décisions de l'État qui entraînent des charges budgétaires, le tout, dit-il, pour un total de 51 millions d'euros. Et les annonces récentes aussi de diminution du budget de la culture globale vont donc complètement dans ce sens-là. De plus, explique-t-il, le département a subi une forte chute des droits de mutation à titre onéreux. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça représente 52 millions d'euros. Donc en gros, il explique qu'ils ont déjà attaqué l'année avec moins 103 millions d'euros pour le département. Le budget 2025 qui est en train d'être préparé nécessite donc pour son équilibre un recours très important à l'emprunt, environ 140 millions d'euros déjà estimés d'emprunt. Et dit-il, cet emprunt sera bien obligatoire de faire appel à des prêts, donc il sera obligatoire de faire appel à des prêts pour pouvoir financer leurs propres investissements, notamment les grands chantiers routiers, hein, on pense au lien et au contournement ouest de Montpellier, qui ne sont pas d'ailleurs sans susciter aussi de grosses critiques, et deux collèges en cours de construction, là on est sur Juvignac et Maraussan, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et dit-il, à cause donc de cet endettement, on ne pourra pas lancer de nouvelles opérations pour l'année prochaine. Ainsi donc, à la clôture de l'exercice budgétaire de 2024, ils ne sont pas en mesure de dégager de l'autosuffisamment suffisant. De l'autofinancement suffisant. Et donc pour 2025, ils devront emprunter pour rembourser une partie du capital des emprunts, ce qui alourdit fortement l'endettement. Et donc ils ne pourront pas emprunter en plus pour accorder des subventions d'investissement aux collectivités locales, ce qui aurait été le cas donc par exemple pour les actions culturelles. Il explique que ce qui relève du cadre obligatoire en fonctionnement et qui va être maintenu, donc, ce sont les financements pour la lecture publique et les médiathèques, les écoles de musique, les actions dans les MEX, les EHPAD, ainsi que sur le domaine d'eau en dehors du festival pour l'EPIC et l'EPA Héro Culture. Ça, ce sont des opérations de médiation autour de la culture. Et il explique qu'ils sont régulièrement sollicités par des organismes ou assos qui bénéficient de subventions diverses du département. Et il rappelle donc qu'il est interdit d'emprunter pour augmenter les recettes de la section de fonctionnement et donc pour donner des subventions. Donc ils ne peuvent pas emprunter pour donner des subventions. En conséquence, ils ont donc bien dû supprimer certaines actions. Et donc il rappelle que le département de la Haute-Garonne, voilà, c'est donc, je cherchais, avait réduit son budget culture de 50%, ça sera donc 48% pour l'Hérault a priori. À côté de ça, dans les jeux d'empilement des collectivités territoriales, du côté de la région Occitanie cette fois-ci, on a déjà annoncé la suppression de 100 000 euros de subventions qui allaient au département pour la programmation culture. Et ils expliquent qu'ils comprennent bien, puisque la région subit aussi des restrictions budgétaires. Et ils rappellent que l'État doit encore au département de l'Hérault, dans le cadre des restes à charge des aides à la personne, je ne connais pas le dossier non plus, mais en tout cas, il explique que ça vaut à 20 ans du budget culture du département, donc visiblement des sommes colossales qui ne sont pas restituées de l'État au département. Il précise aussi, puisqu'il y a eu pas mal de remous et de comparaisons faites à l'arrêt de HMS, c'était Hérault Matériel Scénique, un dispositif de prêt de matériel dont pouvaient bénéficier des associations, des festivals ou toute personne qui souhaitait le demander. Donc ce dispositif de prêt s'est bien arrêté l'an dernier, mais que les matériels ont été transférés gratuitement aux intercommunalités et ce sont donc elles maintenant qui en ont la charge de la gestion des prêts. Et voilà, il termine sa petite lettre pour demander à ce que la presse, qui stigmatise, dit-il, systématiquement les collectivités, souligne fortement la défaillance de l'État dans sa gestion erratique depuis 7 ans, ce qui a conduit le pays dans le chaos budgétaire. Selon donc Kléber Mesquida, le président du département de l'Hérault, les collectivités territoriales sont asphyxiées par l'État. Et voilà, et puis le 7 février, c'est donc là que sera acté définitivement ce nouveau budget.
De toute façon, faut pas les écouter, les pécores, ils sont jamais contents.
Les taxes, c'est censé être utilisé pour régler les problèmes des paysans. Et quand on les entend parler, leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie, là.
Ouais, c'est pas faux.
On reste en région avec, dans Midi Libre encore, des interviews du président et qui relate les vœux qui ont été faits par le président de l'Agence régionale de santé, Didier Jaffre. Il a donc présenté les vœux pour son agence et plusieurs dossiers locaux sont mentionnés dans cette petite lettre d'intention. Le premier défi, dit-il, est démographique, le deuxième sera climatique. C'était donc hier la cérémonie des vœux, au cours de laquelle Didier Jaffre, le directeur de l'Agence régionale de santé, fixait les grandes lignes de l'action de l'État en région pour cette année 2025, et on parle donc bien du domaine de la santé. En Occitanie, où on est en première ligne face à un changement climatique qui bouleverse les prises en charge et en même temps qui vieillit et qui gagne 50 000 habitants par an, avec un différentiel attendu de plus 1 million entre 2040 et 2050, l'ARS est donc sur plusieurs fronts. On va s'intéresser à deux points, puisque je vous en parle régulièrement à ce micro et ils sont d'actualité. Tout d'abord, concernant les polluants éternels. Une campagne de recherche de TFA a été lancée à Salindre par l'ARS. Le directeur explique lancer une campagne de mesure des taux de TFA dans l'eau potable sur la commune de Salindre. On est 5 jours après l'apparition d'une enquête du magazine Que Choisir et de l'ONG Génération Future sur la présence massive de cet acide trifluoroacétique, le TFA. Et ce TFA est un polluant éternel mis en cause dans l'apparition des cancers, des problèmes thyroïdiens ou des troubles cardiovasculaires. Cette présence massive a été révélée dans 96% des échantillons d'eau potable qui ont été prélevés dans 30 communes françaises. Donc un nouveau pavé dans la mare dans la question des eaux potables de France. Donc l'ARS là, prend une initiative d'aller faire des mesures sur l'eau potable de Salindre. À noter qu'en 2024, elle avait déjà lancé une campagne exploratoire sur la présence de ces 20 PFAS via 326 prélèvements et que 3 non-conformités avaient fait appel à des mesures de gestion, rappelait Didier Jaffre. Je vous en avais parlé, je crois, au mois de décembre. Là, on est évidemment au pourtour de l'usine chimique Solvay de Salindre dans le Gard, qui, je vous le disais mardi, va fermer et perdre 90% de son personnel. Cette usine est déjà pointée du doigt par une enquête de Génération Future du mois de février dernier, avec des taux anormalement élevé de TFA dans l'eau potable. Et au-delà, donc la qualité de l'eau de consommation, c'est 40 000 contrôles par an en Occitanie, selon 330 paramètres sur 15 000 points de captage, rappelle donc l'ARS. Donc un dossier chaud à gérer pour cette agence et aussi pour les collectivités qui vont se retrouver avec justement la compétence de l'eau potable et à devoir gérer des pollutions dont souvent elles n'ont pas été les responsables. L'ARS intervient également sur l'eau mise en bouteille, un autre gros dossier, puisqu'en décembre dernier, la publication d'un rapport de l'Agence sur la qualité des ressources du site de Perrier à Vergès avait fait l'effet d'une bombe en révélant des contaminations bactériennes ponctuelles inacceptables pour une eau minérale naturelle. Une commission d'enquête parlementaire vise d'ailleurs aujourd'hui le groupe Nestlé Waters, propriétaire de Perrier, pour faire la lumière sur les pratiques des industriels de l'eau embouteillée. Là-dessus, le préfet du Gard et le directeur de l'ARS seront auditionnés le 6 février pour voir notamment si toutes les mesures et toutes les alertes ont été prises en compte ou pas. En tout cas, la demande d'autorisation de Nestlé est en cours d'instruction. Le préfet du Gard rendra sa décision en 2025, confirme donc le président de l'ARS et explique aussi que l'ARS a missionné là-dessus un hydrogéologue. Le deuxième dossier dont je voulais faire part, mais il y en a bien d'autres évoqués, vous retrouverez tout ça si vous souhaitez dans les pages du Midi Libre du jour, c'est les investissements locaux, notamment concernant la nouvelle clinique de Ganges. Elle sera bien construite, précise Didier Jaffre, avec une maternité. Le chantier devait démarrer à l'automne 2024 pour une fin de chantier en 2026. Pour le Didier Jaffre, il n'a pas pris de retard et il est donc très attendu sur la reconstruction de la clinique de Ganges. Un projet très attendu pour les années à venir, qui appartient au groupe Cap Santé. Et le directeur de l'ARS confirme donc que ce nouvel établissement privé, soutenu à hauteur de 11 millions d'euros par l'ARS, aura bien une maternité, puisque celle de l'actuelle clinique Saint-Louis a fermé le 19 décembre 2022, vous le savez. Mais le permis de construire est déposé, il est en cours d'instruction, il y a bien une maternité, et il faut aussi pouvoir faire des IVG, rappelle l'ARS, reste quand même à attirer gynécologues et équipes dédiées sur place, ce qui visiblement n'est pas de leur ressort, ou en tout cas il n'a pas précisé comment est-ce qu'il comptait s'y prendre pour faire cela, c'est bien là que le bas blesse. D'ailleurs sur le dossier de la maternité, suite à la grande manifestation qui a eu lieu ce 17 janvier, La CGT Ganges, justement, se réjouit que cette mobilisation ait porté ses fruits et ils expliquent avoir été informés de la venue du ministre de la Santé, qui s'appelle Yannick Neuder, dans le département de l'Hérault demain, vendredi 31 janvier. Il fera le tour des CHU pour notamment regarder la question des urgences et il viendra à la clinique de Ganges aux alentours de 14h30 pour inaugurer le nouvel IRM de la clinique, ainsi que son bâtiment. Et l'Union locale CGT de Granges a donc fait une demande d'audience pour rencontrer ce ministre, pour aborder entre autres la question de la maternité de Granges, et pour aborder aussi les problématiques liées aux services d'urgence dans le département. La demande d'audience a été acceptée, donc une délégation de 5 participants sera reçue demain, avec 4 responsables de la CGT et un ou une représentante du collectif Maternité à défendre de Granges. En parallèle de la rencontre, donc, vous êtes conviés à un rassemblement militant et populaire qui est en train de s'organiser au dernier moment. Ça se passera donc devant la clinique à partir de 14h demain, vendredi 31 janvier, pour manifester donc votre soutien à ce mouvement et accélérer si possible la reprise de tous ces services ultra nécessaires pour le territoire. Un mouvement citoyen d'ampleur semble secouer les Balkans et notamment la Croatie, hein, avec un boycott massif des consommateurs qui a fait chuter vendredi dernier le chiffre d'affaires des commerçants de 50%. Ce boycott a été construit notamment par un appel lancé par des associations de consommateurs qui protestent contre la forte hausse des prix dans le pays. C'est notamment la plateforme de consommateurs Hello Inspector qui a lancé l'initiative. Le Centre européen d'excellence du consommateur, des syndicats, des partis politiques et même le ministre de l'économie soutiennent d'ailleurs ce boycott, comme ils l'ont appelé. Les organisateurs donc de ce mouvement accusent les commerçants d'être les principaux responsables de l'inflation. Une inflation qui a atteint 4,5% en décembre dernier contre 2,4% en moyenne dans la zone euro, donc le double. Les commerçants n'imaginaient pas une telle révolte. C'est d'ailleurs félicité dans les médias locaux Josip Kelemen, qui fait partie de l'association des consommateurs Hello Inspector. Pour les commerçants, dit-il, c'était un choc. Pour la première fois, des consommateurs font entendre leur voix haut et fort. La situation des prix en Croatie est anormale. Les consommateurs exigent maintenant que tous ceux qui établissent les prix et qui disposent des outils pour contrôler le marché résolvent ce problème. Donc moins 50% de chiffre d'affaires à 16h vendredi dernier pour les commerçants du pays par rapport au vendredi précédent. Les commerçants ne vont pas souffrir financièrement de cette action, mais c'est un message important symbolique. La hausse anormale des prix doit cesser, rappelle un des organisateurs du mouvement. En effet, la Croatie qui a rejoint la zone euro en 2023 doit gérer un secteur public pléthorique, une des TVA les plus élevées de l'Union européenne. Ils ont quand même 25% de TVA. Un vieillissement et une baisse de sa population, qui est passée de 4,5 à seulement 3,8 millions de personnes en 25 ans. Et le salaire moyen au mois de novembre dernier était de 1 366 €. Et d'ailleurs, ce boycott et ce mouvement général contre la vie chère s'étendaient ce vendredi dernier aussi en Bosnie-Herzégovine, puis à nouveau en Croatie et en Serbie et au Monténégro, où ce boycott va se mêler à la contestation des étudiants au Monténégro et étendre la contestation à d'autres sujets tout en étendant à toute la région. À savoir que ces 1er février, plusieurs ultimatums et dates importantes arrivent pour ces pays, notamment après la chute du Premier ministre en Croatie est prévue ce 1er février une manifestation géante, en Serbie, pour les 3 mois du mouvement, et au Monténégro, le 1er février, c'est une date ultimatum qui a été posée par les étudiants en demandant la démission du ministre de l'Intérieur et les chefs de la sécurité. En Amérique du Sud, ça boue aussi avec toutes les annonces faites par le président Donald Trump. Et pour son premier voyage officiel à l'étranger au début de ce mois de février, le ministre américain des Affaires étrangères Marco Rubio va arriver dans une région bousculée. Il doit aller au Panama, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en République dominicaine, donc Amérique centrale. Une région donc bousculée par son patron Donald Trump, puisqu'en moins d'une semaine, le président ne s'est pas contenté de réclamer le retour du canal de Panama dans le giron américain. Il a aussi clashé de manière très spectaculaire avec le président du pays voisin, la Colombie. C'était avec son nouveau président de gauche, Gustavo Petro, le premier président de gauche qui ait jamais eu ce pays, la Colombie, un ancien guérillero du mouvement M19. Il s'est opposé le 26 janvier dernier à l'atterrissage à Bogota de 2 avions militaires américains remplis de migrants, au motif, selon donc le président colombien, que ces migrants méritaient d'être traités avec dignité, et donc, selon lui, de voyager à bord d'avions civils. Colère de Donald Trump en réponse, le président a immédiatement annoncé la mise en place de droits de douane de 25% sur les importations colombiennes, ce qui aurait fortement déstabilisé notamment la filière du café, et aussi des restrictions sur les visas. En 2 heures, l'ex-révolutionnaire a finalement fait volte-face, cédé à la pression, et il a annoncé l'envoi de 2 avions de ligne, donc des avions civils, pour récupérer ses migrants aux États-Unis. Ainsi, à l'instar du Danemark, qui était un fidèle allié de Washington, malmené sur la question du Groenland, la Colombie, qui est aussi historiquement le principal partenaire militaire des États-Unis d'Amérique du Sud, donc des amis, tous les autres pays sont ainsi prévenus. Si Trump traite de la sorte ses meilleurs alliés, à quoi peuvent-ils eux-mêmes s'attendre? Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, Donald Trump a annoncé, je crois que c'était hier, vouloir donner à la prison de Guantanamo une toute nouvelle affectation. Il a notamment annoncé vouloir que cette prison, qui est normalement réservée aux détenus accusés de terrorisme, accueille désormais jusqu'à 30 000 migrants sans papier. Il a fait un discours dans ce sens et la Maison-Blanche a dans la foulée publié un texte. Donc c'est en réalité pas un décret qu'il a signé, mais là un mémorandum. Il prévoit de porter à pleine capacité un centre de rétention de migrants qui existe déjà sur la base pour y enfermer des criminels étrangers présents de manière illégale sur le territoire américain. Sur X, le président cubain Miguel Díaz-Canel a écrit ceci: sous forme d'acte brutal, le nouveau gouvernement américain annonce la détention à la base de Guantanamo, la base navale de Guantanamo, située en territoire cubain illégalement occupé, rappelle-t-il, de milliers de migrants qu'il expulse de force. En effet, ces sans-papiers seraient donc détenus à côté des prisons connues pour leur torture et leur détention illégale. Le président Trump a ensuite promulgué la première loi votée depuis son investiture le 20 janvier, un texte anti-immigration qui prévoit la détention automatique de personnes en situation irrégulière si elles ont été condamnées ou poursuivies pour certains crimes et délits. Ce texte anti-immigration porte en plus le nom de Laken Riley, une étudiante de 22 ans qui a été tuée par un Vénézuélien en situation irrégulière. On termine ces nouvelles du monde avec quelques brèves. Enfin, on termine pas, on continue avec une brève piochée dans les colonnes de reporters et le retour des néonicotinoïdes. Disons que j'ai du mal aujourd'hui. L'adoption par le Sénat de la proposition de loi de Laurent Duplomb a en effet été actée ce 28 janvier et c'est un jour sombre pour la transition agroécologique, dénonce Génération Future. Grâce au soutien du gouvernement, donc ce texte. La proposition de loi donc, de Laurent Duplomb prévoit de réautoriser par décret des néonicotinoïdes, à savoir l'acétamipride et le flupyradifurone, qui sont interdits depuis 2016 pour leur toxicité avérée sur les écosystèmes. Ils vont donc réintégrer les arsenaux possibles pour l'agro-industrie. Ces insecticides sont un danger pour l'ensemble du vivant, plaidait l'Union nationale pour l'apiculture française, très inquiète pour ses abeilles. Le syndicat estime que depuis la mise sur le marché de ces produits, environ 300 000 ruches ont péri chaque année, soit une augmentation des mortalités de 25%. A l'inverse, une dizaine d'organisations agricoles, notamment arboricoles, elles se sont félicitées de cette adoption. Une première étape pour elles qui devrait rendre aux agriculteurs français les mêmes moyens de protection des cultures que leurs concurrents européens. Voilà, on fait un nivellement par le bas avec les voisins européens. Ces agriculteurs dénonçaient le fait que les néonicotinoïdes interdits en France ne le soient pas au niveau européen. Et donc, bah, ils reviennent sur la table ici. Par ailleurs, cette proposition de loi entend aussi faciliter l'épandage par drone des produits phytosanitaires, une technique controversée, hein, également portée par le député Jean-Luc Fugit, d'assouplir les procédures relatives à l'implantation des méga-bassines et d'élevage industriel, ou encore d'affaiblir l'indépendance de l'ANSES, l'Agence sanitaire nationale. Bah oui, allons-y. En moins de 24 heures, le Sénat et l'Assemblée nationale ont ouvert la boîte de Pandore des mesures climaticides, analyse la journaliste Lorraine Boudard pour le média Climax. L'objectif de ces mesures est clair pour elle, maintenir coûte que coûte un modèle agricole chimiquement intensif et désinguer une à une les normes environnementales considérées comme des obstacles au développement économique. Reste à savoir si le gouvernement accédera à la demande des promoteurs de cette proposition de Duplomb, puisque la demande, c'est une inscription rapide du texte à l'agenda de l'Assemblée nationale, ou si le gouvernement préférera laisser traîner l'affaire.
Allez, rembolle tout ça, Rémi, c'était que vraiment la fin.
Et on revient donc sur du local avec cet appel du comité de soutien à l'enfarineur du Vigan. Et ils vous invitent à vous mobiliser avec eux massivement ce 5 février à 14h à Alès devant le tribunal judiciaire donc, pour exprimer une solidarité indéfectible envers leurs camarades. Le 20 octobre dernier, vous vous en souvenez, lors de la fête de l'oignon et de la pomme du Vigan, ce jeune militant a été arrêté, placé en garde à vue, puis inculpé pour un geste symbolique, à savoir avoir jeté de la farine sur la tête et le costume du député LR-RN, M. Alexandre Allégret-Pilot, député donc de la circonscription du Gard. Un geste qui, pour ses soutiens, est loin d'être violent et qui exprime une colère légitime face à des politiques exacerbant les inégalités, accentuant les divisions, prenant la haine envers certains et stigmatisant les différences. L'interpellé a refusé la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a refusé donc de plaider coupable pour des violences. Et il a donc refusé une peine sans jugement et sans pouvoir se défendre. Donc 6 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende, c'était ce qui était prévu. Il incarne donc pour eux la résistance face à l'arbitraire. Son combat est le nôtre, rappelle ce tract. Il s'agit de défendre le droit de chacun à exprimer son désaccord, à manifester et à s'organiser sans être réprimé. Ensemble, faisons front contre la répression et exigeons la relaxe pure et simple de leurs camarades. Et il demande aussi la fin des poursuites politiques et des procédures expéditives. Le rendez-vous, c'est donc le 5 février à 14h devant le tribunal judiciaire d'Alès. Et pour compléter cette actualité, il faut voir que le député, visiblement, aime bien jouer aussi la carte et un peu la provo, puisque Alexandre Allégret-Pilot, donc ce député sciotiste, le député du Gard, doit présenter ses vœux aux habitants de sa 5e circonscription. C'est ce samedi. Il a choisi l'espace Lucie Aubrac au Vigan. Lucie Aubrac, une salle communale de la mairie du Vigan. Cette décision fait fortement polémique. Et notamment, c'est la famille de Lucie Aubrac qui a écrit une lettre ouverte dans laquelle elle exprime son indignation en demandant que l'élu ne tienne pas son événement dans cet espace. Pour eux, son engagement politique ne correspond pas aux valeurs défendues par leur grand-mère. Racisme, antisémitisme, xénophobie, division, volonté politique de ruiner le pacte social issu du CNR, le Conseil National de la Résistance. Voilà autant de raisons pour lesquelles jamais quelqu'un de ma famille ne s'inscrira sur ces traces-là, et déclaré Renaud Elfer Aubrac, le petit-fils de la résistante. Nous sommes consternés, dit-il, de voir cet espace utilisé pour un tel rassemblement. Face à cette opposition, la mairie du Vigan cherche une solution. La maire a proposé d'attribuer une autre salle communale aux députés pour faire descendre les tensions, mais celui-ci ne décolère pas, il rejette les accusations et s'en prend directement aux héritiers de Lucie Aubrac. Ce n'est pas parce qu'il a dans son sang les gènes de Lucie Aubrac qu'il est digne de l'héritage qu'elle a laissé à la France, affirme-t-il. Ce député sciotiste estime d'ailleurs que c'est une atteinte à la démocratie, et il dit que empêcher un député de la nation élu démocratiquement de tenir une réunion publique, c'est de la censure. Il compare les descendants donc de Lucie Aubrac aux descendants et dit qu'ils relèvent plutôt du maréchal Pétain. Malgré la polémique, donc, Alexandre Allégret-Pilot refuse de changer de lieu. Il maintient sa cérémonie à l'espace Lucie Aubrac ce samedi. Un choix qui pourrait encore raviver les tensions au sein de la commune. Et on termine avec plusieurs jours d'action du 29 janvier au 2 février. Des journées d'action contre Vincent Bolloré et son empire, notamment l'empire médiatique, sont organisées à travers la France à l'appel d'une large coalition d'organisations. D'après les organisateurs, les raisons de se mobiliser contre le milliardaire et son groupe sont pléthores. Pillage colonial et atteinte aux droits humains, mise sous tutelle de la recherche publique, accaparement de terres agricoles, appropriation hégémonique de médias et de maisons d'édition. Bien au-delà d'une figure toxique et d'un dessin personnel, la bolosphère est avant tout un système, lit-on dans cet appel à manifester. Il est d'intérêt public de faire obstacle à son développement. Une douzaine d'actions sont déjà prévues pendant 5 jours de façon décentralisée, des rassemblements, des actions anti-pub, des carnavals. Car insistent les organisateurs, l'une ou l'autre des ramifications de ce royaume tentaculaire est probablement implantée non loin de chez vous. Depuis juillet dernier, au lendemain des élections législatives qui ont vu une poussée de l'extrême droite, de nombreux collectifs écologistes ont rejoint cet appel à désarmer Bolloré, signe que les mouvements environnementaux ont entamé peut-être un tournant stratégique pour davantage lutter contre l'extrême droite. C'est en tout cas ce que semble souhaiter justement le journal Reporter. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Attention, chute de pluie, de neige, attention sur les routes. Et puis, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.